Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, à l'occasion du 60e anniversaire de la prise de fonction du deuxième secrétaire général des Nations Unies, nous partons à la rencontre de Dag Hammarskjöld. Et pour nous en parler, Nathalie Leroy, chef de l'action éducative à l'ONU. Bonne écoute.
Mr. President, I have the great honor to introduce to you Mr. Dag Hammarskjöld, your new Secretary General of the United Nations.
Dag Hammarskjöld est probablement le secrétaire général des Nations Unies qui a le plus défini le rôle du secrétaire général. Il a vraiment marqué de son sceau la fonction, il a vraiment défini ce que devait être le rôle du secrétaire général, il a défini la fonction de la fonction publique internationale. Donc c'est vraiment une personnalité emblématique qui est également associée au bâtiment lui-même. Il y a un certain nombre de sites dans les bâtiments des Nations Unies qui commémorent Dag Hammarskjöld comme vraiment un des éléments fondateurs de l'organisation et quelqu'un qui a vraiment défini cette organisation.
Alors, qui était Dag Hammarskjöld? Est-ce qu'il était un des éléments fondateurs de par son ordre dans l'histoire du fondement de l'ONU ou aussi par rapport à qui il était lui-même en tant que personne et personnage?
Alors, Dag Hammarskjöld est le second secrétaire général des Nations Unies, le premier étant Trygve. Et Trygve, en mars 1953, dépose sa démission. Le processus à travers lequel Dag Hammarskjöld a été recruté est d'ailleurs très très intéressant. À la suite de la démission de Trygve, le Conseil de sécurité, puisque c'est le Conseil de sécurité qui recommande la nomination du secrétaire général, avait avec difficulté tenté de trouver un accord pour trouver un bon candidat. Et finalement, c'est le 31 mars 1953 que, sur la proposition des ambassadeurs de France, Henri Hopno, et de l'Union soviétique, Andrei Vyshinsky, que le nom de Dag Hammarskjöld est suggéré. C'est un ministre d'État suédois qui est relativement inconnu à l'époque. Néanmoins, il fait l'unanimité du Conseil. Alors, le Conseil de sécurité lui envoie un télégramme lui disant « Vous avez été sélectionné pour être candidat, pour être validé par l'Assemblée générale. » Dag Hammarskjöld est stupéfait. Et en fait, il répond qu'il est très très conscient de ses limites, mais qu'en fait, à partir du moment où son nom a été présenté, il voit ça comme une mission qui lui est confiée. Et donc, il accepte que son nom soit soumis à l'Assemblée générale. Et c'est le 7 avril, finalement, que l'Assemblée générale accepte la candidature de Dag Hammarskjöld. Il arrive à New York le 9 avril, à Edelweiss Airport. Et en fait, Trygve va le rencontrer et puis lui dit « Vous allez prendre le travail le plus impossible de la Terre ». Le 9 avril, il arrive à New York. Le 10 avril, il prête serment et prend ses fonctions. C'est donc un processus assez étonnant, puisque maintenant, c'est un processus qui dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Les secrétaires généraux sont confirmés avant leur mandat, ont 6 mois pour... En général, ils sont connus, ils ont le temps de se préparer. Là, il a eu 10 jours, même pas 10 jours en fait, pour se préparer et prendre ses fonctions.
Alors justement, Dag Hammarskjöld se retrouve quand même devant une ONU qui est très différente de celle d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, il a un rôle très important pour définir ce que va être le secrétaire général. Alors, quel est son concept du rôle du secrétaire général dans un monde qui est au milieu d'une guerre froide, avec une grande présence coloniale?
Effectivement, Dag Hammarskjöld arrive en 1953. Il vient dans une nouvelle organisation, puisque c'est une organisation internationale, une organisation mondiale. Il connaît déjà les difficultés. Il sait également qu'il va avoir à former un petit peu l'organisation, puisque l'organisation est toute nouvelle. Elle est née 1946-1948, bien que la charte ait défini les mandats des différents organes. Comment sont vues et perçues les responsabilités du secrétaire général? Comment va se définir le secrétaire général par rapport à l'Assemblée générale, par rapport au Conseil de sécurité? Dag Hammarskjöld va essayer de définir quelle est la fonction du secrétaire général par rapport à l'ensemble de ses organes. Première chose, c'est que Dag Hammarskjöld est donc un Suédois. Il vient de la fonction publique suédoise. C'est un homme qui croit profondément dans l'indépendance de la fonction publique internationale. Et il dit qu'il faut s'acquitter de ses fonctions avec intégrité, une complète impartialité et en toute indépendance de quelconque autorité extérieure aux Nations Unies.
Quand vous dites extérieure aux Nations Unies, les Nations Unies sont quand même composées de membres.
Effectivement, les Nations Unies travaillent pour les États membres, Nous travaillons tous pour les États membres, mais en tant que fonctionnaires des Nations Unies, et c'est vrai pour le secrétaire général, nous avons obligation d'indépendance de notre pays ou de tout autre pays qui pourrait essayer d'interférer en fait avec la politique globale des Nations Unies. C'est intéressant d'ailleurs, en ce moment, le bureau de l'éthique des Nations Unies nous demande de réfléchir à ce que ça veut dire cette notion d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de notre pays d'origine.
Shall work through work to take part in the efforts of the United Nations organization to justify the hopes of all its members.
Une des premières fonctions de médiateur, en fait, de Dagmar Marshall a été en fin 54. Il y a 15 soldats américains qui ont été capturés par la République populaire de Chine pendant la guerre de Corée. Le Conseil de sécurité demande à Dagmar Marshall d'aller faire une opération de médiation et il va rencontrer Chou Enlai fin décembre 54 et il rencontre Chou Enlai. À l'époque, la Chine, la République populaire de Chine, ne fait pas partie des Nations Unies. Et donc, c'est vraiment une opération de médiation qui est menée à titre personnel, ce sont les bons offices du secrétaire général. Dagmar Marshall mène à bien sa mission et en fait, il se trouve qu'il y avait un petit peu un défaut juridique. Ça veut dire que, alors que 11 des Américains avaient été jugés par les tribunaux et en fait, du point de vue chinois, c'était une affaire interne, 4 n'avaient pas encore été jugés. En fait, il y avait un espace juridique sur lequel il a joué, il a pu négocier. Et en fait, dans la mesure où Dagmar Marshall a pu créer cette relation avec Chou Enlai, finalement, il revient et les Américains sont libérés en deux fois. Et la deuxième libération, la libération du groupe de 11, va être le 29 juillet 1955. C'est le 50e anniversaire de Dagmar Marshall. Et ça, c'est le cadeau de Chou Enlai à Dagmar Marshall.
Vous avez évoqué les bons offices de Dagmar Marshall en tant que secrétaire général. Quelles sont ses caractéristiques et quel a été son apport ?
Dagmar Marshall est une personne très persistante et très intègre. Il a défini aussi le rôle de la diplomatie tranquille, où en fait, il se rend compte que la négociation peut avoir à se faire en dehors des grandes salles de réunion. Et il va donner de sa personne, il va aller négocier avec les différents chefs d'État et de gouvernement de l'époque pour faire avancer les différents problèmes. Un des grands développements qui caractérise son mandat également est l'invention en quelque sorte du concept de maintien de la paix. C'est en 1956, la première force de maintien de la paix est déployée dans le Sinaï, c'est l'UNEF. Et en fait, c'est avec Lester Pearson du Canada qu'il invente le concept de maintien de la paix et qu'on voit les premières opérations de maintien de la paix. Mais il est aussi un visionnaire. En fait, il dit en mai 1956 également, à un discours à New York University, « Je ne doute pas que dans 40 ans, nous serons engagés dans la même quête ». Comment pourrait-on s'attendre à autre chose ? L'organisation mondiale est encore une nouvelle aventure dans l'histoire humaine.
Donc il ne serait pas découragé de voir aujourd'hui où nous en sommes finalement ?
Je pense qu'il le serait. En fait, les dossiers sur lesquels Dagmar Marshall a travaillé continue à être très présent, comme la grande question du Congo, qui a vraiment défini aussi...
À laquelle il a finalement donné sa vie. Hein.
Absolument. Dagmar Marshall meurt en septembre 1961, alors qu'il négocie des accords de paix pour le Congo. Il est dans un avion, et c'est la nuit du 17 septembre au 18 septembre. L'avion s'écrase, et en fait, les 16 personnes, en fait, il y en a 15 qui meurent, dont Dagmar Marshall. L'un d'entre eux a survécu pendant 6 jours, et puis après meurt. Mais en fait, c'est ça, ce sont vraiment les grandes questions que traite Dagmar Marshall, le Moyen-Orient, la Corée, le Congo, sont des questions qui sont encore d'actualité. En fait, c'est avoir une grande persévérance et avoir une conviction qu'il faut continuer. Lors de son discours d'investiture, il cite, et il le cite à plusieurs reprises, en fait, un poète suédois qui dit que la plus grande prière l'homme peut faire n'est pas la prière où on demande une victoire, mais celle où on demande la paix. Et en fait, je pense que c'est un petit peu aussi l'œuvre de sa vie. C'est un homme qui a une grande spiritualité, qui est vraiment très influencé par un grand nombre de philosophes. C'est donc quelqu'un qui avait une force intérieure qui était vraiment due à sa spiritualité et qui l'aide en fait à persister et à continuer toujours et en fait à aller vers les efforts en direction de la paix.
The greatest prayer of man does not ask for victory, but for peace.
Vous avez dit qu'en fait Dagmar Marshall est présent partout dans le bâtiment des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur son importance par rapport au bâtiment même ?
En fait, la première pierre du secrétariat est posée sous le mandat de Trygve-Lie, mais c'est vraiment Dagmar Marshall qui est là pendant tout le processus de construction du secrétariat. Et il y a des endroits très particuliers auxquels il s'intéresse. Alors qu'il est secrétaire général et il a des fonctions de politique internationale, il va également s'intéresser aux détails de la construction. Au moment du 40e anniversaire de sa mort en 2001, nous avions créé un site web qui retrace en fait son histoire et qui retrace sa marque sur le secrétariat. Et en fait, il y a une salle qui est la salle de méditation des Nations Unies, qui est un endroit très très important pour Dagmar Marshall. C'est une salle œcuménique qui n'est pas liée à une religion ou une autre, mais c'était une salle qui avait été désignée et puis sans aucun effort de décoration. Et en fait, la salle de méditation telle qu'elle existe maintenant, elle est ouverte en 1957, il s'attache personnellement à la décoration de cette salle. Alors, il y a une journaliste qui citait un moment où ils étaient en train de travailler, et en fait, à un moment, il est 2h du matin, et puis il dit, bon, on va aller voir ce qui se passe en bas, ils y vont, et puis ils arrivent, et Dagmar Marshall voulait aller voir dans la salle de méditation comment avancer les travaux de peinture. Et il y va, il va vérifier, il est 2h du matin, et puis de la même façon, on a retrouvé, toujours dans le cadre de ce site web qu'on avait organisé, une lettre qu'il avait écrite à un fabricant de tissus suédois qui allait regarder les problèmes de moquette. Il a vraiment prévu jusqu'au plus petit détail la décoration de la pièce. Alors, il y a un mural qu'il avait demandé à son ami Bo Besco de réaliser. Il y a un hôtel en minerai de fer qui a été donné par le gouvernement suédois. Et puis, il détermine, alors, la moquette ne devra arriver qu'ici, et puis après, on aura des dalles. Donc, c'est un exemple de son intérêt pour le bâtiment du secrétariat. Et puis, des autres endroits qui portent sa marque. Alors, il meurt en 1961 et en fait, il avait commencé à travailler, il y avait la bibliothèque d'Aga Marshall, la bibliothèque qui lui a été dédiée. Les travaux avaient commencé et puis en fait, après sa mort, l'Assemblée Générale décide de lui dédier la bibliothèque. Et là encore, il avait commencé à définir un petit peu ce que devait être le rôle de cette bibliothèque. Puis aussi, après sa mort, il y a un très grand mouvement international qui veut lui témoigner respect et souvenir. Et en fait, il y a un comité du personnel qui décide de faire une mémoire vivante du secrétaire général. Et en fait, le comité invite Marc Chagall à réaliser un vitrail à la mémoire de Dagmar Marshall et à la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie au service de l'organisation. Et le 15 mai 63, Marc Chagall arrive et dédie le monument avec ces mots, et c'est des mots qu'il a dit en français, à tous ceux qui ont servi les buts et principes de la Charte des Nations Unies et pour lesquels Dagmar Marshall a donné sa vie.
Et c'est là que se tiennent tous les ans les commémorations pour ceux qui sont tombés au service du drapeau bleu.
Tout à fait, absolument. Et c'est là d'ailleurs, il y a une plaque à Dagmar Marshall, c'est l'endroit le plus interpellant en fait, oui, du secrétariat des Nations Unies.
Alors, vous avez parlé d'un site web que vous avez aidé à construire pour le 40e anniversaire de sa mort en 2001. En faisant ces recherches, en assemblant toutes ces informations, quel est l'aspect de Dagmar Marshall qui vous a le plus touché?
Si je dis intégrité ou... c'est un mot qui revient souvent en fait. Je crois qu'on a besoin de héros et en fait Dagmar Marshall est certainement une des personnes qui reste par sa détermination. C'était aussi un montagnard en fait, il aimait escalader les montagnes, alors il le faisait beaucoup en Suède et c'est toujours cette persistance et cette persévérance, ce sentiment du devoir à accomplir et ce sentiment qu'il y a un travail à faire, il faut escalader les montagnes, on ne peut pas toujours escalader toutes les montagnes. Mais en fait, on essaye et on continue, on persiste. Et c'est un homme d'une grande vision et d'un dévouement extraordinaire. Et en fait, qui allait jusqu'à donner sa vie à la cause de l'organisation. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires des Nations Unies qui ont ce même attachement à Dagmar Marshall. Je pense qu'il est emblématique de ce qu'il y a de meilleur aux Nations Unies et ce à quoi nous aspirons tous.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine à Dagmar Marshall, personnage emblématique et deuxième secrétaire général des Nations Unies, qui a donné sa vie à l'organisation. Escale, le magazine hebdomadaire de la radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Florence Westergaard et Rosie Starr. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.